Chapitre 22. Il reposa le combiné sans quitter des yeux la tache qu'il avait vue bouger à l'extérieur du véhicule. La protubérance sur le sol, parmi les cailloux. Un animal, se dit-il. Et son cœur manqua s'arrêter sous le choc de cette évidence, beaucoup trop lourde pour lui. « Je sais ce que c'est, » se dit-il. « Je n'en ai jamais vu, mais je les connais par les vieux documentaires animaliers qu'ils passent à la télé gouvernementale. Ils ont disparu !» Il se hâta de prendre son Sydney tout froissé pour en tourner les pages de ses doigts tremblants. « Crapaud, Bouffonidae, toute variété, des... disparus depuis des années. » La créature la plus précieuse aux yeux de Wilbur Mercer, plus encore que les ânes. Il me faut une boîte. Il tourna la tête, ne vit rien sur la banquette arrière de l'aéromobile, bondit donc aussitôt à l'extérieur pour se précipiter jusqu'au coffre. Celui-ci accueillait une boîte en carton contenant une pompe à carburant de rechange. Rick se hâta de l'en extraire, dénicha quelques vieux bouts de ficelle effilochés et s'enfuit lentement en direction du crapaud sans le quitter des yeux. L'animal se confondait en totalité avec la texture et les nuances de la poussière omniprésente. Peut-être avait-il évolué pour s'adapter au nouveau climat, comme il l'avait fait avec les précédents. Rick ne l'aurait jamais remarqué s'il n'avait pas bougé. Il se tenait pourtant à moins de 2 mètres de l'endroit où le chasseur de primes était assis. « Qu'est-ce qui se passe quand on trouve, si on trouve, un animal censé avoir disparu ?» Il tentait en vain de s'en souvenir. Ça arrivait si rarement. Quelque chose à propos d'une médaille d'honneur remise par les Nations Unies, ainsi qu'une récompense, qui s'élevait à plusieurs millions de dollars. Et de toutes les possibilités, trouver la créature la plus sacrée aux yeux de Mercer. Bon Dieu, c'est impossible. J'ai peut-être subi des lésions cérébrales dues à mon exposition à la radioactivité. Je suis devenu un spécial. Il m'est arrivé quelque chose, comme la tête de Piaf avec son araignée, c'est exactement la même chose. Est-ce que Mercer se trouve derrière tout ça? Mais je suis Mercer. Je suis l'artisan. J'ai trouvé le crapaud parce que je vois par les yeux de Mercer.
Il s'accroupit à proximité de l'amphibien. Celui-ci avait excavé du sable avec sa croupe pour s'aménager un trou dans la poussière, de sorte que seul le sommet de son crâne plat et ses yeux proéminents dépassaient à présent du sol. Son métabolisme s'était ralenti le temps que Rick revienne pour le faire sombrer dans une espèce de transe. Ses yeux vides regardaient le chasseur de primes sans avoir conscience de sa présence.
« Il est mort », se dit Descartes avec horreur. « De soif, peut-être. »
Mais il avait bougé. Après avoir posé par terre la boîte en carton, il entreprit de déblayer le sol meuble autour de l'animal, qui ne parut pas y voir d'inconvénient. Mais bien sûr, Rick aurait tout aussi bien pu ne pas exister à ses yeux. Il sentit la singulière froideur de l'animal lorsqu'il le souleva. Son corps semblait sec et ridé dans sa main, presque flasque, et aussi froid que s'il avait élu domicile dans une grotte souterraine à des kilomètres du soleil. Le crapaud s'était mis à se tortiller. De ses faibles pattes de derrière, il essayait d'échapper aux doigts qui le retenaient, instinctivement poussé à sauter loin d'un danger potentiel.
« C'est un gros, » se dit Rick. « Un adulte, plein de sagesse, capable de survivre à sa manière, là où nous-mêmes en aurions été incapables. Je me demande où il trouve de l'eau pour ses œufs. Voilà donc ce que voit Mercer. »
Se dit-il, tout en ficelant minutieusement la boîte. Encore et encore.
Une vie que nous ne sommes plus en mesure de distinguer. Une vie soigneusement enterrée, jusqu'aux yeux, dans le cadavre d'un monde mort. Mercer perçoit sans doute dans chaque cendre de l'univers des traces de vie discrètes, presque invisibles. Je le sais désormais. Et ayant vu par les yeux de Mercer, je ne pourrai probablement plus jamais arrêter. Et aucun androïde ne viendra lui couper les pattes, comme ils l'ont fait à l'araignée de la tête de Piaf.
Il déposa soigneusement la boîte sur un siège, puis se glissa derrière le volant.
« C'est comme si j'étais redevenu un gosse. »
Toute pesanteur l'avait quitté à présent, cette fatigue monumentale tellement oppressante.
« Quand je vais le dire à Iran ?»
Il décrocha le combiné, commença à composer le numéro, puis s'interrompit.
« Je vais lui faire la surprise.
Ça ne va me prendre que 40 minutes de vol pour rentrer. » Il démarra le moteur avec enthousiasme et, peu après, filait dans le ciel en direction de San Francisco, 1 000 000 de kilomètres au sud. Iran était assise devant l'orgue d'humeur Penfield, son index droit sur le cadran. Mais elle ne composait rien. Elle se sentait trop apathique, trop mal pour vouloir quoi que ce soit. Un poids qui obstruait l'avenir et la moindre des possibilités qu'il avait pu un jour sembler recéler.
« Si Rick était là, »
songea-t-elle, « il me forcerait à composer le 3. Et je me retrouverais à vouloir composer quelque chose d'important, joie exubérante par exemple, ou encore un 888, envie de regarder la télé, peu importe ce qu'elle diffuse. Je me demande d'ailleurs ce qui y passe en ce moment. » Elle se demandait aussi où Rick était parti.
Il va peut-être rentrer, mais peut-être pas.
Et elle sentit ses os se ratatiner de vieillesse dans son corps. On frappa à la porte de l'appartement. Posant le mode d'emploi du Penfield, elle se leva d'un bond.
Je n'ai plus besoin de composer quoi que ce soit désormais, pour peu que ce soit Rick.
Elle se précipita à la porte, l'ouvrit toute grande.
Salut,
lança-t-il.
Il était là, devant elle.
Une coupure à la joue, les vêtements fripés et grisâtres, les cheveux eux-mêmes saturés de poussière.
Ses mains, son visage, de la poussière avait adhéré à la moindre parcelle de son être à l'exception des yeux qui brillaient, ronds d'émerveillement, comme ceux d'un petit garçon. Comme s'il était allé jouer. Et s'était enfin décidé à rentrer pour le dîner,
songea-t-elle,
pour se reposer, faire sa toilette et me raconter les miracles de sa journée.
Ça fait plaisir de te voir,
dit-elle. J'ai quelque chose.
Il tenait dans ses mains une boîte en carton qu'il ne posa pas en pénétrant dans l'appartement,
comme si elle contenait quelque chose de trop précieux, de trop fragile pour qu'il la lâche, comme s'il voulait la garder à jamais entre ses doigts. Je vais te préparer du café.
Et elle alla presser le bouton de la cafetière. Quelques instants plus tard, elle déposait l'imposante tasse à sa place, sur la table de la cuisine. Rick vint s'asseoir sans pour autant lâcher la boîte, le visage toujours empreint du même émerveillement.
Toutes ces années qu'ils avaient partagées, et jamais elle ne lui avait vu pareille expression. Quelque chose s'était produit pendant son absence, depuis qu'il était reparti au volant de son aéromobile la nuit précédente. Il était de retour à présent, nanti de cette boîte. Elle devait contenir tout ce qui lui était arrivé.
« Je vais dormir. » annonça-t-il, toute la journée. J'ai appelé le bureau, Harry Bryant m'a dit de prendre un jour de repos, je ne vais pas me faire prier. Il déposa précautionneusement la boîte sur la table et prit sa tasse, consciencieusement parce que c'était ce qu'elle attendait de lui. Il commença à boire son café.
Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, Rick ?
Lui demanda-t-elle après s'être assise en face de lui.
Un crapaud.
Je peux le voir ? Elle le regarda défaire la ficelle qui entourait la boîte et retirer le couvercle.
Oh !
Pour quelque obscure raison, l'animal l'effrayait.
Est-ce qu'il mord ?
Prends-le. Il ne va pas te mordre. Les crapauds n'ont pas de dents. » Il sortit l'animal de sa boîte et le lui tendit. Dominant son aversion, elle l'accepta.
« Je croyais qu'ils avaient disparu, »
dit-elle en le retournant, curieuse de voir ses pattes. Celles-ci semblaient presque inutiles.
« Ils peuvent sauter comme des grenouilles, non? Je veux dire, ils ne risquent pas de me sauter de la main sans crier gare. »
Les crapauds n'ont pas beaucoup de force dans les pattes. C'est ce qui les différencie des grenouilles avec l'eau. Une grenouille ne s'éloigne jamais de l'eau, alors qu'un crapaud peut vivre dans le désert. Je l'ai trouvé dans celui qui s'étend le long de la frontière avec l'Oregon, où tout a péri. Il tendit la main pour le lui reprendre. Mais elle avait découvert quelque chose. Alors qu'elle le tenait toujours à l'envers, à lui tripoter l'abdomen, elle localisa de l'ongle le minuscule panneau de contrôle qu'elle ouvrit d'une chiquenaude.
Oh !
Le visage de Rick se décomposa peu à peu.
Oui. Je vois. Tu as raison.
L'air penaud, il contemplait sans mot dire l'animal artificiel. Il le reprit, joua avec ses pattes, dérouté, comme incapable de comprendre, puis il le remit précautionneusement dans sa boîte.
Je me demande comment il s'est retrouvé là-bas, dans le désert de Californie. Quelqu'un doit l'y avoir déposé. Quant à savoir pourquoi.
Je n'aurais peut-être pas dû te le dire qu'il était électrique. Elle posa une main sur son bras. Elle se sentait coupable de voir l'effet que ça produisait sur lui, le changement.
Non, fit Rick. Je suis content de le savoir, ou du moins.
Il se tut un instant.
Je préfère le savoir.
Tu veux utiliser l'orgue d'humeur? Ça te ferait du bien? Tu en as toujours tiré davantage de profit que moi.
Ça va aller.
Toujours abasourdi, il secoua la tête comme pour essayer de se clarifier les idées.
L'araignée que Mercer a donnée à la tête de Piaf, Isidore. Elle était probablement artificielle, elle aussi, mais peu importe. Ces trucs électriques ont leur propre vie, si dérisoire soit-elle.
Tu as l'air de quelqu'un qui aurait couru 100 kilomètres.
Il hocha la tête. La journée a été longue.
Va dormir un peu. Il la dévisagea perplexe.
C'est fini, n'est-ce pas?
Il semblait attendre d'elle qu'elle le lui confirme, comme si ça avait été à elle de le savoir, comme si le dire lui-même ne signifiait rien, ses propres paroles étant sujettes à caution. Elle ne prendrait corps que si son épouse en reconnaissait la véracité.
« C'est fini, »
confirma-t-elle.
« Mon Dieu, quelle mission marathon !» Une fois que j'ai commencé, je n'avais pas d'autre issue que de continuer. Elle m'a entraîné d'un bout à l'autre, jusqu'à ce que je finisse par avoir les Beatty. Et là, d'un seul coup, je n'avais plus rien à faire, et c'était...
Il hésitait, à l'évidence stupéfait de ce qu'il s'apprêtait à dire.
C'était le pire. Après que j'en ai eu fini, je ne pouvais pas m'arrêter, parce qu'il n'y aurait... plus rien ensuite. Tu avais raison ce matin quand tu m'as dit que je n'étais qu'un vulgaire flic.
Ce n'est plus ce que j'éprouve, dit-elle. Je suis juste sacrément heureuse que tu sois rentrée à la maison, là où se trouve ta place. Elle l'embrassa, ce qu'il parut apprécier. Son visage s'éclaira, presque autant qu'avant. avant qu'elle lui ait révélé que le crapaud était électrique. « Tu penses que j'ai mal agi ?» s'enquit-il. « Ce que j'ai fait aujourd'hui, non. » Mercer disait que c'était mal, mais que je devais quand même le faire. Vraiment étrange. Il vaut parfois mieux faire le mal que le bien.
C'est notre malédiction, fit Iran, celle dont parle Mercer.
La poussière.
Les tueurs qui ont trouvé Mercer dans sa 16e année, quand ils lui ont interdit d'inverser le cours du temps et de ramener des choses à la vie, de sorte qu'il ne peut plus désormais faire autre chose que suivre le mouvement de la vie, d'aller là où elle va, vers la mort. Et ce sont les tueurs qui lui jettent les pierres, sans cesse à le poursuivre, à nous poursuivre tous en fait. N'est-ce pas l'un d'eux qui t'a blessé à la joue ?
Si, fit-il d'une voix éteinte. Tu vas aller au lit maintenant.
Je règle l'orgue sur 670.
À quoi ça correspond ?
À un long repos mérité.
Il se leva à grand-peine, le visage ensommeillé, confus, comme si toute une série de batailles s'était jouée ces dernières heures. Puis, pas après pas, il parcourut le chemin qui le séparait de la chambre à coucher.
« D'accord, » dit-il.
« Un long repos bien mérité. »
Comme il s'étendait de tout son long sur le lit, un nuage de poussière s'échappa de ses vêtements et de ses cheveux pour aller se déposer sur la blancheur des draps. « Pas besoin d'allumer l'orgue d'humeur, » comprit Iran, en pressant le bouton qui opacifiait les fenêtres de la chambre. La lumière grisâtre du jour disparut. Sur le lit, Rick finit par sombrer dans le sommeil. Elle resta là un moment, le temps de s'assurer qu'il n'allait pas se réveiller, se redresser d'un bond en criant de terreur, comme cela lui arrivait certaines nuits. Puis bientôt, elle retourna dans la cuisine et se rassit à la table. Le crapaud électrique s'agitait dans sa boîte à ses côtés. Elle se demanda ce qu'il lui fallait manger pour rester en bon état. « Des mouches artificielles », décida-t-elle. Elle ouvrit les pages jaunes à la rubrique « Accessoires pour animaux électriques » et composa le numéro. « J'aimerais commander une livre de mouches artificielles, s'il vous plaît », dit-elle à la vendeuse quand celle-ci apparut à l'écran. « Celle qui vole et bourdonne vraiment. »
« C'est pour une tortue électrique, madame.
Un crapaud.
Je vous suggère dans ce cas notre assortiment d'insectes rampants et volants de toutes sortes, comprenant
« Les mouches feront l'affaire », fit Iran.
« Vous allez me livrer à domicile ? Je ne veux pas quitter mon appartement, mon mari dort et je veux m'assurer qu'il va bien. Pour un crapaud, je ne saurais trop également vous conseiller une mare auto-entretenue, à moins qu'il ne s'agisse d'un crapaud cornu, auquel cas nous avons un kit comprenant du sable, des galets multicolores et divers débris organiques. Et si vous comptez le nourrir par les voies naturelles, je vous suggère de laisser notre service après-vente venir procéder à un ajustement périodique de la langue. C'est absolument vital pour un crapaud.
« Parfait, » fit Iran. « Je veux qu'il fonctionne à la perfection. Mon mari y est très attaché. »
Elle donna son adresse, puis raccrocha. Soulagée, elle se servit enfin une tasse de café noir brûlant.
Vous venez d'écouter Blade Runner, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Traduit de l'anglais, États-Unis, par Sébastien Guillot. Lu par Stéphane Ronchevski.
Merci. Et à bientôt chez Audible.